Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 21 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. Crise en Centrafrique, la France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale ont appelé l'ex-chef de l'État centrafricain, François Bozizé, et certains groupes armés qui mènent une offensive en Centrafrique visant à perturber les élections présidentielles et législatives du 27 décembre à déposer les armes dans un communiqué commun diffusé hier. Ces pays et institutions demandent par ailleurs que Bozizé, les groupes armés alliés, s'abstiennent de toute action de déstabilisation et respectent la décision de la Cour constitutionnelle du 3 décembre 2020. Vendredi soir, trois des plus puissants groupes armés qui occupent plus de deux tiers du pays avaient commencé à progresser sur des axes routiers vitaux pour l'approvisionnement de la capitale Bangui. Ils avaient en outre annoncé leur fusion. La mission de l'ONU en Centrafrique a assuré dimanche soir que la situation est sous contrôle. Les dirigeants des pays de l'IGAD, groupement de sept pays de l'Est africain, se sont réunis dimanche à Djibouti pour un sommet extraordinaire consacré à la situation en Éthiopie et aux récentes tensions entre le Kenya et la Somalie. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a notamment appelé les membres de l'organisation à aider l'Éthiopie face à la crise humanitaire dans la région du Tigré. Le nord du Nigeria s'enfonce dans un tourbillon de violence où les attaques meurtrières et les enlèvements perpétrés par des djihadistes à l'est et par des bandes criminelles à l'ouest se sont intensifiés ces dernières semaines. 5 soldats ont été tués ce week-end par des djihadistes dans une embuscade contre un convoi militaire dans l'état du Borno, selon des sources sécuritaires, ajoutant que 35 personnes ont été kidnappées, une femme tuée dans l'attaque d'un autre convoi vendredi. En Côte d'Ivoire, le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou Gikawe, a été évacué vers Paris ce week-end pour raisons médicales, selon son parti, poursuivi par la justice pour complot contre l'autorité de l'État et emprisonné depuis novembre. Monsieur Gikawe a été transféré le 11 décembre dans un hôpital d'Abidjan après un malaise cardiaque. L'Algérie va commencer la vaccination contre le COVID-19 en janvier, a annoncé dimanche soir le président Abdelmadjid Tebboune, qui a demandé à ce que soit choisi le vaccin adéquat. Le premier ministre Abdelaziz Djerad a assuré récemment que l'Algérie acquerra le vaccin anti-coronavirus présentant des garanties certaines, d'où l'impératif d'éviter toute précipitation ou décision aléatoire. La découverte d'une nouvelle variante hors du contrôle du coronavirus sur le territoire britannique a poussé dimanche de nombreux pays, dont l'Allemagne, la France, la Turquie ou encore Israël, à suspendre leur liaison avec le Royaume-Uni. Le premier ministre britannique Boris Johnson va présider aujourd'hui une réunion de crise. Le chef de la majorité républicaine au Sénat américain, Mitch McConnell, a annoncé dimanche qu'un accord avait été trouvé entre les principaux élus républicains et démocrates du Congrès sur un plan de relance économique d'environ 900 milliards de dollars. Chuck Schumer, le chef de la minorité démocrate du Sénat, a déclaré que le projet de loi devrait obtenir suffisamment de votes au Congrès pour être adopté. Républicains et démocrates tentaient depuis plusieurs mois de s'accorder sur un troisième plan de relance. Le Congrès a déjà voté cette année 3 000 milliards de dollars d'aide face à la crise sanitaire. Au moins 8 roquettes Katyusha se sont abattues dimanche dans la zone verte de la capitale iranienne, Bagdad, lors d'une attaque visant l'ambassade des États-Unis, causant au bâtiment des dégâts mineurs, ont déclaré l'armée irakienne et l'ambassade américaine. L'ambassade des États-Unis à Bagdad a condamné l'attaque et exhorté les responsables politiques irakiens à prendre des mesures pour éviter de nouvelles attaques et traduire les responsables devant la justice. Nous sommes le lundi 21 décembre 2018, VOA Afrique Info, en ligne de mire dans ce journal, le Gabon, où tout semble indiquer que l'après Ali Bongo, affaibli par un AVC depuis 2 ans, se prépare tout doucement à Libreville avec des changements dans la Constitution. L'ancien président Bouyoya sera inhumé au Mali, où il a vécu ces dernières années. Et sans oublier, dans la partie magazine, après les sports, la situation sécuritaire en Centrafrique qui fait planer des doutes sur la tenue des élections. Jean-Roger Billon, on marque une pause et à tout à l'heure.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La suite de nos informations ce lundi 21 décembre. Au Gabon, un nouveau projet de révision constitutionnelle fait débat dans l'arène politique. La réforme prévoit qu'en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, la fonction de président sera assurée par un collège composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense. Tout semble indiquer que l'après Ali Bongo, affaibli par un accident vasculaire cérébral, depuis 2 ans se prépare tout doucement à Libreville. De la capitale gabonaise, la correspondance d'Ismaël Nzé.
Le projet est présenté par le gouvernement comme une nécessité pour épargner le pays d'un éventuel vide au sommet de l'État en cas d'indisponibilité temporaire ou définitive du président de la République. En cas d'adoption définitive du texte querellé, la vacance du pouvoir devra être assurée par les présidents des deux chambres du Parlement et le ministre de la Défense. Pour les opposants à ce projet de révision constitutionnelle, c'est une situation absolument inédite dans la tradition d'un régime présidentiel. Elle tranche radicalement avec la pratique jusque-là admise. Cette pratique, conformément à la Constitution encore en vigueur, dispose que seul le président du Sénat est habilité à diriger le pays en cas d'empêchement définitif du président de la République. Le communiqué final du Conseil des ministres ne faisant nullement mention de la nature de la gestion de cette vacance, il suscite dès lors des interrogations, notamment sur la durée de l'intérim et les réels attributs du collège des délégués censé gérer le pays suivant les nouvelles dispositions de la loi fondamentale. Soumis sous peu à l'examen des députés et sénateurs, ce projet, le 8e du genre, depuis la fin du monopartisme au Gabon en 1991, résistera à l'épreuve des frondeurs dans un parlement presque acquis à la cause de la majorité au pouvoir. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
L'ancien président du Burundi, Pierre Buyoya, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris du coronavirus, à l'âge de 71 ans, sera enterré au Mali où il résidait, a annoncé dimanche sa famille dans un communiqué. Michel Joseph.
L'épouse, les enfants et petits-enfants du président Pierre Buyoya annoncent aux parents, amis et connaissances que les funérailles du défunt se dérouleront au Mali, où le président Buyoya et son épouse résidaient depuis quelques années, indique le communiqué, disant que la date des funérailles sera précisée ultérieurement. M. Buyoya était le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel depuis 2012, jusqu'à sa démission le mois dernier, après sa condamnation en octobre à la perpétuité par contumace au Burundi pour l'assassinat en 1993 du président Melchior Ndadaye. Il avait dénoncé un procès politique. Selon un haut cadre du gouvernement burundais, la présidence du Burundi a informé la famille que, comme tout citoyen burundais, M. Buyoya avait le droit d'être enterré chez lui, mais qu'il ne bénéficierait pas des honneurs dus à un ancien chef de l'État à cause de sa condamnation. Buyoya a présidé 2 fois le Burundi entre 1987 et 2003. Son premier mandat a été marqué par l'ouverture de l'espace démocratique qui a débouché sur l'élection de Ndadaye, dont l'assassinat a plongé le pays dans la guerre civile. Durant son second mandat, il a signé en 2000 les accords d'Arusha, ouvrant la voie à la fin du conflit en 2003, date à laquelle il a quitté le pouvoir conformément à ces accords.
L'OMS et l'Agence européenne de contrôle des maladies ont appelé dimanche leurs membres en Europe à renforcer leur contrôle pour combattre la propagation de la nouvelle variante du coronavirus très contagieuse qui circule au Royaume-Uni en améliorant leur capacité de détection de la souche. Nathalie Barge.
La nouvelle souche comprend plusieurs mutations et entraînerait une contagiosité accrue du coronavirus. Selon l'OMS et l'ICDC, des cas ont été signalés au Danemark, aux Pays-Bas et en Australie. Les personnes avec un lien épidémiologique avec des cas porteurs de la nouvelle variante ou ayant voyagé dans des secteurs infectés doivent être identifiées immédiatement, souligne l'agence européenne appelant à tester, isoler et suivre leurs contacts. La France a suspendu tous les déplacements de personnes par voie routière, aérienne, maritime et ferroviaire en provenance du Royaume-Uni. Les Pays-Bas, la Belgique et l'Italie ont annoncé la suspension des vols avec le pays. L'Allemagne en a fait de même et a aussi restreint toutes les entrées de citoyens britanniques et sud-africains par voie maritime, ferroviaire et routière. Les Londoniens et habitants du sud-est de l'Angleterre se sont reconfinés dimanche pour tenter de juguler cette mutation du coronavirus beaucoup plus contagieuse. Les experts européens affirment toutefois que les vaccins actuels restent efficaces face à cette nouvelle variante du virus.
C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec John Lydon.
L'Allemagne approuve un appui de 32 milliards de francs CFA au bénéfice du Cameroun. Les accords de coopération financière signés par les deux pays sont prioritairement destinés au développement et à la modernisation des activités dans les secteurs de l'état civil, des finances publiques, de la santé et de l'aménagement du territoire. Le Togo ne projette plus qu'une baisse de sa croissance en 2020. Selon Financial Afrique, la croissance de l'activité économique du pays est désormais attendue à 0,7% par les autorités togolaises. C'est ce que l'on retient d'un discours prononcé par le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, devant le Parlement lors du vote du budget 2021. Pour l'année 2021, justement, le ministre table sur une croissance de 4,7% sous réserve que la pandémie soit rapidement maîtrisée. La BAD de la Banque africaine de développement pourrait lever sur le marché des capitaux près de 10,4 milliards de dollars pour son programme d'emprunt 2021. Ces emprunts qui visent à accélérer la transformation économique et structurelle du continent avec le High Five interviennent après la plus importante augmentation de capital dans l'histoire de la banque, soit 115 milliards de francs CFA. Un capital qui est donc passé de 93 à 208 milliards de dollars.
À présent, la page de sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Bonjour Jean-Roger et bonjour à tous.
Football de sable pour commencer, la CAF a lancé les inscriptions pour la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer.
Tout à fait. Et le processus d'inscription se déroulera jusqu'au 31 janvier 2021, a communiqué l'instance qui gère le foot en Afrique. Elle a invité les associations membres souhaitant voir leur équipe participer à cette compétition à soumettre leur engagement via le système de gestion des compétitions de la CAF. Il faut préciser que le tournoi final à 8 équipes se déroulera du 23 au 29 mai 2021 au Sénégal. Le vainqueur et le finaliste représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde qui aura lieu en Russie.
Football toujours, les tournois zonaux qualificatifs de la CAN des moins de 20 ans en Mauritanie 2021 se poursuivent sur le continent.
Oui, et après la qualification du Ghana et du Burkina Faso de la zone B de l'UEFA qui a eu lieu à Porto Novo au Bénin, la Centrafrique et le Cameroun ont fait pareil dans la zone UNIFAC qui s'est tenue à Malabo. En Guinée équatoriale, les Fauves de Bazoumangui ont terminé en tête de leur poule, tandis que dans son groupe, le Cameroun doit sa qualification au Congo, qui a éliminé la RDC après l'avoir battu 2-1.
Élisée, la zone UNAF, Afrique du Nord, rendra aussi ses deux qualifiés.
Exactement, Jean-Roger. Et ce sera ce lundi à l'issue d'un mini-championnat qui a regroupé 4 équipes. La Tunisie et le Maroc, bien placés pour se qualifier, vont s'affronter, tout comme la Libye qui jouera l'Algérie déjà éliminée. Pour rappel, les deux premiers de cette zone seront parmi les 12 qualifiés pour la phase finale de cette CAN 2021 qui se joue en Mauritanie du 14 février au 14 mars 2021.
De la boxe pour finir, le Congolais Junior Makabu conserve son titre de champion du monde WBC.
Après 11 mois d'attente, Junior Makabu a enfin pu défendre son titre de champion du monde WBC des lourds légers à Kinshasa. Et il l'a fait avec brio. Le premier Congolais champion du monde de boxe anglaise au sein d'une des 4 grandes fédérations a dominé le Nigérian de 40 ans. Olan Rewaju Durodura, qui est resté sur 5 victoires de suite, dont 2 obtenues cette année par KO. Cette fois, c'est lui qui n'a pas pu finir le combat sous les coups de Junior Makabu.
Salut les amis, c'est Yakuba Ouédraogo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h, temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéro de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leurs éclairages. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, nos dossiers du jour. Situation sécuritaire précaire en Centrafrique. La campagne électorale pour les élections du 27 décembre est au point mort en raison de nombreux combats signalés aux alentours de Bangui. Malgré ces tensions, les autorités et les Nations Unies rassurent quant à la tenue des élections. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Jusqu'à dimanche soir, la situation sécuritaire était encore confuse dans plusieurs localités de la République centrafricaine. Le gouvernement et la MINUSCA ont annoncé la reprise et le contrôle de certaines villes tenues par les rebelles, mais des sources locales contactées par VOA Afrique ont affirmé le contraire. Selon ces sources, les villes de Bossombélé, Yaloké et Bossomtélé dans le nord-ouest de Bangui étaient jusqu'à dimanche en début de la soirée entre les mains des hommes armés. Que se passe-t-il réellement en cette période? Alors que la campagne électorale est dans sa dernière ligne droite, Ange-Maxime Kazagui, porte-parole du gouvernement centrafricain.
La République centrafricaine fait face à une tentative de déstabilisation de ses institutions, pourtant démocratiquement mises en place. En effet, M. François Bozizé Yanguvonda, pourtant ancien chef d'État, a en intelligence, avec les membres de sa famille et de sa région, certains groupes armés et mercenaires étrangers organisaient des attaques sur les villes de Yaloké et Bossombélé, mais vaillamment repoussées par nos forces de défense et de sécurité. Monsieur François Bozizé Yanguvonda a quitté la ville de Bossangwa, où il s'était retranché et se trouve actuellement aux abords de la ville de Bossombélé, avec l'intention manifeste de marcher avec ses hommes sur Bangui. Il s'agit manifestement d'une tentative de coup d'État.
Des accusations rejetées par le KNK, le parti de François Bozizé. Pour le moment, aucune région du pays n'est épargnée par la psychose. Le président Faustin Archange Touadéra, lors d'un meeting de son parti samedi à Bangui, a tenté de rassurer. Nous faisons face à des agitations, des gens qui ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent un éternel recommencement pour enfoncer davantage le pays qui est en train de consolider sa jeune démocratie. Tout ce que le centrafricain veut, c'est la paix. Qu'on le veuille ou non, les centrafricains iront aux urnes le 27 décembre 2020. Ces tensions sont survenues alors que les centrafricains sont appelés aux urnes le 27 décembre prochain. Face à ce climat délétère, l'opposition démocratique à travers sa plateforme La Côte 2020 suspend la campagne électorale et exige des concertations. Nicolas Tiangaï, candidat à la présidentielle et porte-parole de La Côte 2020.
Maintenant avec les mouvements des groupes armés et les confrontations entre les groupes armés et les forces de défense et sécurité appuyées par la MINUSCA, les gens se sont retrouvés dans la brousse, les populations civiles se sont retranchées dans la brousse. Il y a des morts, il y a des blessés. Et donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas aller faire campagne. Et c'est la raison pour laquelle la COD 2020, en toute responsabilité, a décidé de suspendre la campagne jusqu'à ce que la paix soit retrouvée, que les Centrafricains se mettent ensemble dans le cadre d'une concertation nationale pour discuter des conditions d'apaisement qui devaient permettre aux Centrafricains de choisir librement leurs dirigeants.
Sur le terrain, c'est la confusion totale. La coalition des groupes armés occupe sans grande résistance plusieurs villes. Bangui, qui ne veut pas se laisser faire, a fait appel à des renforts russes qui sont visibles depuis samedi aux côtés de l'armée nationale. Parviendront-ils à sauver le régime en place? C'est la question que se posent de nombreux centrafricains. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Mali, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire pour 10 jours sur toute l'étendue du territoire, suspend les activités culturelles, les festivals et spectacles pendant 2 semaines. Cette décision est accompagnée de mesures restrictives que les hommes de médias contestent, de même que les commerçants. Ces derniers disent n'avoir pas été informés par les autorités maliennes, alors que la presse voit dans ces mesures une atteinte à la liberté d'expression au Mali. Les précisions à Bamako de notre correspondant Kassim Traoré.
D'habitude, le dimanche est jour de repos. Tel n'a pas été le cas pour la presse malienne. Elle se mobilise contre une décision prise par le ministre de l'administration territoriale allant dans le sens du respect de la loi sur l'état d'urgence. Bandjougou Danté, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali.
Comme tout le monde, nous avons vu le communiqué qui, en soi, ne devait pas poser problème. Mais de l'analyse du communiqué, nous nous sommes demandé en quoi la lutte contre la maladie à coronavirus peut donner droit au contrôle de contenu médiatique, au contrôle de communication téléphonique, nous n'avons pas compris.
Dans un communiqué, le ministre de l'administration territoriale indique que l'instruction relative à l'état d'urgence ne vise nullement à remettre en cause quelque liberté que ce soit.
Mais nous pensons que, au nom de la lutte contre la maladie à coronavirus, nous n'allons jamais accepter de qui que ce soit la remise en cause des libertés essentielles, notamment la liberté de la presse.
L'application de la loi sur l'état d'urgence ne concerne pas que la presse. Les commerçants ont appris la décision avec une grande surprise et qui sont actuellement installés dans les rues marchandes. Chekmar Diakité, président des commerçants détaillants de la commune 4.
Nous-mêmes, on a entendu, comme tout le monde a entendu, on a vu ça aux réseaux sociaux. On est là seulement, on attend. On a demandé le monsieur le maire. Lui, il a dit que lui aussi, il a entendu ça sur les réseaux sociaux. On a demandé le gouverneur. Lui aussi, il a dit même propos. Nous, on est là, on attend.
Avec la fermeture des boîtes de nuit, espaces de loisirs et autres entreprises, le gouvernement envisage des mesures pour amortir fiscalement le poids de la COVID sur les entreprises qui sont impactées. Alphonse Sanou, ministre de l'économie et des finances.
Des mesures de remise pénalité d'impôts sur toutes les entreprises affectées à hauteur de 50%. Cette mesure a été remontée à 100% pour toutes les pénalités concernant les entreprises des secteurs de l'hôtellerie, du transport, du tourisme, les bars, les discothèques, toutes les entreprises qui seront directement impactées par la COVID. Cette mesure sera 75% pour toutes les entreprises qui ont des pénalités à payer.
Ce matin, les promoteurs culturels, les artistes, les agences de voyage et de tourisme échangeront avec le ministre de l'Artisanat et du Tourisme face à cette situation de la COVID-19. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, le couvre-feu imposé pour lutter contre le coronavirus a été reconduit pour 2 semaines. À compter du 15 décembre 2020, dans les provinces concernées par cette mesure, la nuit du 24 au 25 décembre 2020, le couvre-feu sera exceptionnellement repoussé à 1h du matin sur l'ensemble du territoire national. Une reconduction diversement appréciée par les citoyens tchadiens. André Côte-Bajinga, correspondant de VOA Afrique, fait le point à N'Djamena.
Au terme du décret signé le 14 décembre 2020, le maréchal Idriss Déby Itno a reconduit le couvre-feu de 2 semaines de 19h à 5h du matin dans certaines provinces et de 21h à 5h du matin à N'Djamena et localités environnantes. Un jour plus tard, Kalzebe Paimi Debe, coordonnateur de l'action gouvernementale, a abrogé certaines dispositions du dit décret par un simple communiqué officiel en repoussant le couvre-feu exceptionnellement à 1h du matin sur l'ensemble du territoire pour permettre à la communauté chrétienne de commémorer la naissance de Jésus-Christ.
Je rappelle simplement qu'un communiqué même officiel n'existe même pas dans l'ordonnancement juridique.
Docteur Sita Kiyumbatina Béni, juriste et président des œuvres et missions Maranatha Tchad, après réaction des juristes, le communiqué officiel disparaît et un autre décret tombe et modifie le décret initial en confirmant les heures de couvre-feu.
Là aussi ça pose problème. Quand vous dites que le 24 le couvre-feu est prolongé jusqu'à je sais pas, minuit, 1h du matin, mais c'est mes connaître même les raisons pour lesquelles on prend ces décrets, n'est-ce pas, rectificatifs. Parce que la naissance de Jésus, c'est à minuit. Vous ne pouvez pas dire aux gens de célébrer la messe de minuit et d'être chez eux avant 1h du matin. Je ne sais pas si le décret a remis en cause le communiqué. C'était même pas compliqué de s'asseoir, de réfléchir et de faire les choses de la manière la plus responsable. Et là aussi, jusque-là, on n'a pas de sanctions, comme d'habitude. Ça veut dire que le chef lui-même, il est d'accord avec ça. On a atteint le ridicule. Donc, je n'ai pas de mots.
Les citoyens, quant à eux, dénoncent la politique de deux poids, deux mesures et craignent que les forces de l'ordre les brutalise le 24 décembre après l'heure du couvre-feu.
Normalement, ils vont nous laisser jusqu'à veiller, mais 1h, des fois, la police vient peut-être nous arnaquer, là, c'est pas bien.
C'est une liberté qui est restreinte.
C'est pas du tout normal, parce que s'ils ont levé ça pour l'autre, la fête de Ramadan, pourquoi pas les deux fêtes de fin d'année?
Là, il y a certains qui veillent à l'église, ils vont veiller jusqu'à 1h et rentrer, ou bien comment est-ce que les chrétiens feront pour pouvoir s'organiser et fêter le jour du 24?
Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est pour notre bien. La maladie, elle est réelle, donc c'est juste pour nous protéger. On peut organiser les veillées de 17h à 20h, c'est pas mauvais.
Mahamat Adam Abdallah, leader de jeunes proches du parti au pouvoir, exhorte ses compatriotes à une prise de conscience.
Au Tchad, il fait beaucoup chaud. Les jours, on est occupé par d'autres choses. Mais c'est la nuit qu'on se regroupe en réalité. Et c'est pourquoi le gouvernement l'avait instauré ça. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Alors nous leur disons que la maladie existe jour comme nuit. Et que la jeunesse, faudrait qu'il accompagne aussi le gouvernement parce que ce sont eux l'avenir de demain.
Docteur Sita Kiyumbatina Béni demande à toute la population population d'être vigilante et entend organiser le réveillon en différé.
Moi, si j'ai un conseil à donner à la population tchadienne d'une manière générale, c'est purement et simplement de ne pas organiser quelque chose le 24 et le 31. Parce que cette histoire de décret-là, c'est un cadeau empoisonné. Parce que l'alcool ne va pas vous dire c'est fini, il faut rentrer à la maison à 1h. Et donc, nous ne rentrerons pas, n'est-ce pas, dans ce désordre créé volontairement par les autorités. Connaissant nos forces de l'ordre, on leur donne, n'est-ce pas, une carte blanche pour maltraiter les chrétiens. Et c'est pour ça que moi, en tant qu'évêque, en tant que bishop, je ne vais pas rentrer dans ce jeu.
André Godouma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Au Burkina Faso, le festival hip-hop s'est tenu ce week-end à Ouagadougou, la capitale. Cette année, le festival se tient dans un contexte sanitaire difficile et ces dernières semaines, les cas de COVID ont explosé dans le pays. Conséquence, le festival s'est donné pour mission de sensibiliser la jeunesse. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, nous en dit plus.
Nous sommes au Festival Faso Hip Hop. C'est la 5e édition. Plusieurs rappeurs se succèdent sur scène. Des milliers de fans de ce style musical sont présents. Martin Berthé en fait partie.
Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop la musique, surtout le hip hop. Oh, c'est ma culture. Donc, c'est à quoi je suis venu pour suivre le spectacle. Sinon, ça me va trop quoi. Voilà, j'aime bien le hip hop, c'est à quoi je suis là.
Les organisateurs ont constaté que le hip hop burkinabé n'avait plus de visibilité, d'où la création de ce festival. Docteur Ké, membre du groupe Kadioba, est le promoteur du festival.
Façon hip-hop, on va dire, c'est parti d'un constat. À un moment donné, on a senti que non, il n'y avait plus de visibilité sur le hip-hop burkinabé. Et nous, comme ça, en tant que rappeurs, on a décidé d'initier ce festival-là, histoire de promouvoir à notre manière notre art.
Mais le festival, cette année, se tient sous la menace du coronavirus. Alors, le festival a décidé de faire dans la sensibilisation.
En fait, ce que je pensais, c'est qu'il y a l'ignorance aussi de la population. Si les gens ne savent pas ce que c'est.
Alerich est un jeune rappeur burkinabé. Il a joué ce soir-là au festival.
Il y a plein de gens qui disent déjà que le problème sanitaire qu'on a n'existe pas. Il y a des gens qui n'y croient pas du tout. Donc s'il y a des festivals comme ça pour leur expliquer que non, en réalité, on a des problèmes sérieux. Et voilà, je pense que ça, c'est déjà un bon pas.
Docteur Ké, le promoteur.
Les gens
qui sont présents ce soir
ne mesurent pas la gravité du mal. Et nous, en tant qu'artistes, en tant qu'un festival où il y aura presque du monde. Donc nous, on a décidé comme ça, franchement, d'apporter notre pierre à la sensibilisation. Parce que c'est triste, mais c'est une réalité. La COVID, c'est une réalité. Donc c'est une façon aussi de sensibiliser tout le monde.
Le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente de plus en plus au Burkina. La semaine dernière, 221 cas ont été confirmés en 24 heures, un nombre record. Le Premier ministre, lui, a tenu une rencontre d'urgence avec les acteurs impliqués dans la lutte. La recrudescence de la maladie à coronavirus dans notre pays est due au grand relâchement des mesures barrières par la population, d'où la nécessité de remobiliser la société civile pour des sensibilisations sur l'existence et la persistance de cette maladie, a-t-il reconnu. Faso Hip Hop espère jouer sa partition. Depuis le 9 mars, date de l'apparition de la maladie au Burkina, 4954 personnes ont contracté la maladie dans le pays. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez. télécharger et partager l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RL Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.